Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche jusqu'à midi. Si vous avez raté la première heure, vraiment vous pourrez aller la réécouter cet après-midi avec Pascal Duprat, Antoine Camboire qui étaient nos invités pour parler de la relégation de Saint-Etienne, pour parler du maintien du FC Nantes. Encore une très belle émission, une très belle heure qui s'ouvre avec David Douillet, Marc Madiot, Fred Weiss, Simon Dutin, la Vasque Olympique qui est de retour à Paris. Faut-il passer à autre chose? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. 10h30, Lewis Hamilton est dévasté. Les Ferrari n'avancent plus, mais il veut être jugé après son passage chez Ferrari. Le champion a-t-il un crédit limité? Vous n'êtes pas d'accord et ce sera la punchline des GG. 10h45, le PSG se prépare à faire la fête trois fois. La première a eu lieu hier pour célébrer le titre de champion de France. La parade, le PSG veut sa parade sur les Champs-Élysées en cas de succès en Ligue des Champions. Faut-il tout faire justement pour avoir une parade sur la plus belle avenue du monde? Nous aurons des informations à vous donner. Ce sera à 10h45. Mais on débute cette nouvelle heure avec cette citation d'Alain Juppé. Ah bah que t'as très bien connu, David Douillet, en plus, Alain Juppé.
Oui, bien sûr.
Qui a été ton ministre des Affaires étrangères, non? Je me trompe pas.
Exactement. Ouais, excellent, ouais. C'est un mec top, ouais.
Bon, en tout cas, il a dit un jour, Alain Juppé, je sais pas si t'étais à côté de lui, mais il l'a dit, la nostalgie n'est pas bonne conseillère.
RMC, le bras de fer GG.
Je proclame les Jeux de Paris 2024 ouverts.
Bienvenue à Paris.
Léon Vincent va être champion olympique. Va être champion olympique pour la deuxième fois de la soirée. Léon Vincent, champion olympique.
Mais pas ça autre chose. Mais regarde, lui, il s'enfuit, il fait sa vie.
Allez, on s'y gagne.
Arrête de m'agresser. Tu veux que je t'explique? Je t'explique. Sinon, on passe à autre chose.
Félix qui va servir sur le coup droit d'Hugo Calderano. Et ça y est, c'est fait. Félix Lebrun.
Où pourrait-on passer à une autre affaire,
hein? Allez, encore petite, jusqu'au bout, là, c'est la dernière ligne droite. La ligne droite de ta vie, mon enfant. La ligne droite pour toi, pour ta famille, pour le cyclisme français, pour les Bretons.
Effectuer le mouvement avec cette torche olympique pour aller embraser le chaudron. Voilà qui est fait, la flamme olympique dans le jardin des Tuileries.
Ah, les frissons encore, avec notamment Marc Madiot, commentaire de la course en ligne.
Pour les Bretons.
Et oui, pour la France, pour les Bretons. Enfin, t'aurais dû rajouter pour le général de Gaulle. Tu l'as oublié. Alors, elle avait illuminé le ciel de Paris et les yeux des touristes du monde entier. La Vasque Olympique va faire son grand retour dans le jardin des Tuileries le 21 juin prochain, où elle célébrera chaque soir jusqu'au 14 septembre. Deux dates pas choisies au hasard, hein, de la fête de la musique à la fête du sport. Cet objet iconique des Jeux de Paris 2024 reviendra chaque été jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, comme si nous voulions revivre inlassablement et avec les mêmes émotions cet été 2024. Faut-il tourner la page des JO? Je vous pose la question. Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Fred Weiss et David Douillet. C'est-à-dire du poids, du muscle.
Ouais, non, je... Non.
Non quoi?
Bon, je... Non, bah non, oui, enfin, oui, bah, non.
Non, mais peut-être.
Non. Bon, non, ben je vais le faire. Je vais faire le job. Mais non,
non, non, non, non, non, non. Si tu penses le contraire, non, je veux surtout pas déflorer ton. Ok. Alors, attendez. Je consulte les copains. Faut-il tourner la page à un moment donné? Il y en a qu'un qui pense que oui. Il y en a qu'un qui pense que oui. C'est Fred Weiss. Les autres, c'est non. Est-ce que c'est ça?
Ben non, non.
Oui, non.
Non, mais dites-moi.
Non, la page est déjà tournée.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà.
Pas j'ai tourné, mais on est sur autre chose.
De toute façon, on coupera tout ça, on n'est pas en direct, il n'y a aucun problème.
Non.
Merci de me saboter l'émission.
Ok. Non, alors,
vous m'avez répondu.
Moi, c'est sincère. Tu peux pas. Tu peux pas dire qu'on n'est pas sincère, d'accord?
Ça, c'est vrai.
Cette émission n'est pas truquée. Elle est en direct.
Elle est réelle.
On s'exprime avec nos tripes.
Vous avez raison. Restez pas dans vos postures. Vous inquiétez pas. C'est quand même Fred qui va commencer parce que lui, il est sûr de ses convictions. Et ensuite, les copains, n'hésitez pas. On rattrapera, on raccrochera les bidons. C'est expression t'aime bien, mon cher Marc. Alors avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maurice. Salut Morgane, après un jour sans fin de Bill Murray, Paris propose un été sans fin.
nom de code de cet événement, toujours la flamme. Mais retour de flamme aura aussi bien fonctionné. Le souvenir des Jeux Olympiques et Paralympiques va être ravivé jusqu'au 31 décembre grâce à une série d'événements. Des moments locaux comme des ouvertures au grand public de terrain qui ont servi aux JO. C'est le cas du bassin de Saint-Denis ou de la colline d'Elancourt, le site du VTT. Le 27 mai sera le vrai début de ces célébrations. Le Bellem, le majestueux trois-mâts débarqué à Marseille avec la flamme à son bord, va faire hurler sa corne de brume au son de la musique parade de Victor Lemann. Le compositeur donnera également un concert au Grand Rex le 13 juin, une semaine avant que la Vasque ne redécolle depuis le Jardin des Tuileries. Les cérémonies d'ouverture des JO le 26 juillet et celles des Jeux Paralympiques le 28 août fêteront un J+365 sous la forme de festival. Leur programmation est pour l'instant tenue secrète. On devrait y revoir certains des artistes de l'été 2024. La parade des champions qui avait terminé la séquence Paris 2024 aura droit à un remake, un anniversaire le 14 septembre. Des animations à Paris mais aussi dans toute la France. Zeus, le cheval métallique qui avait galopé sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture, fait déjà le tour de l'Hexagone et c'est un succès partout où il passe. Peut-être un avant-goût de la ferveur à venir.
Merci Morgane Maury pour toutes ces précisions. On était chargé, donc comme si on était en 2024. La Vasque Olympique de retour à Paris et d'autres événements. Est-ce qu'il faut tourner la page, oui ou non? Les GG, vous n'êtes quand même pas d'accord. Et je vais vous écouter religieusement, évidemment. Sachez qu'on vous a posé cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. C'est un large oui à 67%. Donc Fred, t'es devant, tranquillement. Et tu vas écouter...
Mais je suis pas contre qui, parce qu'apparemment, ils sont pas tous bien décidés par rapport à ce qu'ils veulent. Tu sais ce que tu veux, Simon, toi?
Moi, je pense qu'il ne faut pas tourner la page, non? Ouais. Okay. Enfin, je ne vois pas pourquoi on tournerait la page.
Ok, donc toi, pour toi, c'est oui, tu es tout seul, t'inquiète pas. On va écouter David Douillet. On va commencer avec toi parce que c'était un cri du cœur. Tu m'as dit, mais non, j'y sais. Pour moi, c'est non. Je t'écoute.
Mais non, mais parce que la vérité, c'est que la page, elle est tournée. Ah. Mais l'héritage des Jeux doit être là. Et si la Vasque Olympique doit toujours trôner pendant des dizaines d'années, voire toujours, à ce moment-là, dans les Tuileries, c'est pour faire perdurer cet esprit olympique, faire comprendre, enfin, parce que c'est pas encore compris, tout ce que ça peut apporter à une population, à l'univers du sport, à une société, en réalité. Et c'est tout ça dont on a besoin, encore plus maintenant, parce que le vivre ensemble, parce que le symbole du village olympique, où tout le monde est réuni, quelle que soit sa couleur de peau, ses religions, etc., pour faire un des plus beaux spectacles au monde, c'est ça, en fait, que symbolise la Vasque Olympique. Et Dieu sait si on en a besoin. Donc, pour moi, elle devrait être là-bas toute l'année, tout le temps, pour montrer, faire comprendre que c'est l'avenir du monde. C'est tout, voilà. Et c'est ça qui est le plus important dans cette affaire.
Je suis ravi parce que je savais pas comment commencer. Et grâce à David, j'ai compris. Je suis complètement opposé à ce qu'il vient de dire. On en a marre de vivre dans la nostalgie. Qu'est-ce qu'on aime dans les Jeux Olympiques? C'est qu'il y a une temporalité.
Le vivre ensemble, c'est la nostalgie, pourquoi?
Mais ça a aucun rapport avec le vivre ensemble. Donc ça veut dire que pour le vivre ensemble, tu allumes une petite flamichette et d'un seul coup, on a tous envie de vivre ensemble.
C'est magnifique.
C'est pas une flamichette. Cette envie, elle est incroyable. En plus, ils ont été obligés de demander au CEO l'autorisation. Ils ont été en fait, on va la voir tous les étés jusqu'à 2028. C'est-à-dire que on va voir la flamme en 2025, on va avoir la flamme en 2026, on va avoir la flamme en 2027, et après, bah non, c'est plus à nous parce que c'est enfin, on va s'en débarrasser et Los Angeles va la récupérer. Mais à un moment, le souvenir, il doit rester dans nos têtes. On doit avoir des acquis grâce à ça. Le vivre ensemble, ça doit être quelque chose dont on parle tous les jours. On n'a pas besoin d'allumer quelque chose qui n'a plus aucun rapport. Je me
alors,
répète, qu'est-ce qui plaît à tout le monde dans les Jeux Olympiques?
Donne-moi un symbole.
C'est que ça commence à un début à la fin. En fait, je pense que David Douillet voudrait que les films de Noël durent de janvier à décembre. Et que tout le temps, il puisse voir ces films qui sont catastrophiques. Non, il y a un temps pour tout. Noël, c'est Noël. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. C'est fini. On a été ravis de les avoir. Je suis ravi qu'on les ait eus. Ça a été une expérience fantastique. On est tous ravis de ce qui s'est passé. Arrêtons un petit peu de vivre en noir et blanc. Décidément, aujourd'hui, David Douillet vit en noir et blanc et c'est insupportable.
Je te parle de l'héritage des
Jeux. Mais là, tu nous fais de la politique, tu as été ministre, ça se voit, ça s'entend.
Merci.
Non, David,
mais
je suis désolé.
Alors,
Marc, le coulant, on va pas être d'accord.
Alors, Marc, et après
on va
David,
pas être
tu vas
d'accord, David. Moi, on nous a vendu les Jeux. Les Jeux ont été formidables.
Tout à fait.
C'était exceptionnel. On nous a dit derrière, vous allez voir. Le fait d'avoir eu les JO à Paris, ça va développer le sport en France. On va surfer sur la vague des JO.
Résultat, oui. baisse des budgets du sport.
Résultat, oui. Premier budget qui sort derrière, on sucre.
Ah bah oui, bah alors, moi pour moi, il n'y a pas d'héritage des jeux.
Je suis désolé, soit rassuré.
Il n'y a pas d'héritage des jeux. Il n'y a pas d'héritage des marques fermées. Alors oui, on va mettre la flamme. Ok, c'est un beau symbole, c'est tout ce que tu veux. Mais là, on fait de la politique, on fait de la cosmétique. Moi, la vraie continuité des jeux, ce sera des vrais moyens pour le sport. Des vrais moyens pour le sport à l'école. Le développement du sport à l'école. Mais ça, tout ça, ça a disparu.
Mais ça n'a rien à voir.
Je suis d'accord avec toi.
Il y a une continuité, c'est pas vrai.
David Douillet.
Donnez-moi, mais les gars, mais je suis entièrement d'accord avec vous, à 1000%. Mais donnez-moi un symbole.
Ah, mais le symbole, il est là. Le symbole, c'est bien.
Mais donnez-moi un symbole qui va mettre. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que ça arrive pas. Alors, donnez-moi un symbole sur lequel tu puisses t'appuyer, justement, pour mettre un coup de pied au cul à toutes ces personnes qui devraient faire, justement, ce qu'on veut qu'ils fassent et qu'ils ne font pas. Il y en a pas.
Donc, t'es en train d'expliquer que cette flamme va donner un coup de pied au cul à tout le monde et d'un seul coup, les budgets vont augmenter parce qu'il y a une flamme.
Non, mais peut-être que
je l'espère. Eh ben, moi, je suis optimiste. Je suis pas pessimiste comme vous.
Ok, Simon Dutin.
La question, c'est faut-il tourner la page? Et vous me dites elle est déjà tournée.
Bah oui,
il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget. Mais je comprends pas parce que alors parfois souvent je peux critiquer David qui je trouvais parfois un petit peu dans l'idéalisme justement les valeurs du sport tout ça.
On est tous dans l'idéalisme.
Mais je suis désolé, je sais pas dans quel monde vous vivez. J'y vois moi un défi à la centralisation parisienne. Voilà, vous habitez pas à Paris donc vous raisonnez par rapport au pognon, à la politique sportive. Je suis désolé, c'est pas comme si on s'étouffait avec les choses qui nous rassemblent, les choses qui nous font du bien, les choses qui nous rendent heureux. Regardez un petit peu, écoutez l'actualité. En face de nous, il y a le studio de BFM. Allez demander à nos journalistes de quoi ils parlent toute la journée, qu'est-ce qu'ils racontent aux gens, ce que les gens se disent lorsqu'ils rentrent chez eux. Et parfois, on galvaude un petit peu les symboles, on leur donne un petit peu trop d'importance, à mon sens, et on les substitue aux réelles décisions. Ça, je suis désolé. Moi, j'ai été le premier, ici dans ce studio, ailleurs, à critiquer, à dire que on fonçait dans le mur, que les Jeux à Paris, ça allait être un carnage. Demandez aux gens qui ont quitté Paris uniquement parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, s'ils regrettent pas, finalement, d'avoir vécu. Moi, j'ai vécu dans Paris l'été dernier, une expérience que j'oublierai jamais de toute ma vie. Voilà, ça m'a tordu. Je me suis dit que j'avais été vraiment un benêt de pas y croire. Parce que Parce que justement, lorsqu'on parle d'héritage, parfois, encore une fois, c'est galvaudé. Moi, j'habite place de Clichy. Quand la montgolfière monte dans le ciel, je vis avec des enfants. Eh ben, vous pouvez pas remplacer ce côté féerique, poétique. C'est gratuit, ça attire les gens. C'est pour une fois raccord. Non, justement, c'est raccord avec la promesse de Paris qu'on critique souvent à juste titre selon moi, pour un engagement éco-responsable. C'est quelque chose, enfin je veux dire, à Vancouver, il y a encore la vasque, elle est allumée régulièrement. À Tokyo, il y a encore la vasque. À Los Angeles, ils vont accueillir les Jeux en 2028, il y a encore la vasque de 1984, ça leur arrive de la rallumer. Elles marchent toutes ces vasques avec des combustibles fossiles, la nôtre, elle est avec des LED et elle est avec une énergie renouvelable. Il n'y a que des bons côtés, ça attire du monde, ça donne une belle image de notre pays, ça rassemble les gens. Je vois pas en quoi ça vous dérange, je vois pas en quoi alors, il faudrait tourner la page.
Alors Marc veut répondre.
Je suis désolé, la question c'est la vasque olympique de retour à Paris, faut-il tourner la page? C'est ça la question. La question est, la page elle est déjà tournée, parce que la vasque olympique c'est un beau petit symbole qu'on nous repropose à intervalles réguliers jusqu'à 2028, mais la vraie suite des JO, la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on a fait des JO et qu'est-ce que les JO apportent aujourd'hui au sport en France?
Tu le disais, c'est un écran de fumée, c'est du cosmétique.
Ouais, moi je le vois comme c'est magnifique, une belle cosmétique. Hein, je serais le premier à aller avec mon gamin voir la vasque si l'occasion se présente. J'ai pas de
et rien de ça, c'est pas suffisant pour que ce soit une bonne nouvelle?
Si, c'est une bonne nouvelle, mais faudrait pas qu'à cause de cette vasque qu'on nous repropose, on nous fasse croire que la suite des JO est extraordinaire. On a un monde sportif en France qui est différent de ce qu'il était avant les JO. Ce n'est pas le cas.
Mais est-ce qu'on nous a vendu
Moi, on nous a vendu le contraire, quand même.
Non, mais avant les Jeux, mais ça, toutes les villes hautes te vendent ça, et tous les pays qui abritent les villes hautes te vendent ça. En effet, le narratif du CIO que j'ai souvent.
Le président de la République, Emmanuel Macron, on peut penser ce qu'on veut de la demi-heure de sport et tout ça. On nous a vendu ça. Ah, bah non, après les Jeux, c'est bon, on n'a plus besoin de faire la demi-heure de sport.
Mais on a quand même aussi le droit de surfer sur des réussites. On est tous d'accord pour dire que c'est une réussite.
Oui.
En fait, moi la question que je me pose, c'est que tu dis, ouais, moi, avec mes enfants, je vais aller regarder ça. C'est-à-dire que tu vas aller en 2027, tu vas aller regarder la vasque et tu vas dire à ton fils, à ta fille, tu vas dire, ouais, en 2024, on a eu les Jeux. C'est quoi le sens de ça?
Bon, alors, je vais essayer d'y aller cet été, déjà. Je vais peut-être pas en 2027.
Que ça va être en 2025, en 2026, en 2027. Donc, ça veut dire qu'en 2027, ça sera quoi l'intérêt? C'est-à-dire que tu vivras que dans le passé, tu auras plus de symbolique, ce sera juste effectivement, du cosmétique, c'est tout.
Alors, David veut répondre. Moi, je vais juste vous donner mon petit avis sur cette question. J'étais très heureux en septembre d'apprendre que la vasque allait être de retour, parce qu'on a souvent comparé la vasque olympique à la Tour Eiffel avec l'exposition universelle. Elle devait rester que quelques semaines, que quelques mois. Finalement, elle est restée. Évidemment, c'est l'un des symboles de la France, si ce n'est le symbole de la France. Et en fait, là, je me retrouve quelques mois plus tard. 10 mois plus tard, j'ai trouvé ça magnifique, hein, la vache. Je pense que tout le monde trouve ça magnifique. Mais je me dis, on est un peu passé à autre chose, là. J'étais très heureux en septembre de la retrouver, et 10 mois plus tard, je me dis, bon, est-ce bien nécessaire? Mais après,
ça paraît hors contexte. Ça paraît comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que, ok, c'est passé, on la ramène, mais on comprend pas
pourquoi. David Douillet.
Le but, je comprends pas.
Justement, tu parles de hors contexte. Quel est le aujourd'hui, le symbole physique qui va montrer qu'on est passé à côté de l'essentiel sur ces Jeux Olympiques. L'essentiel, ça a été de les organiser. À un moment donné, ça, c'était le présent de l'époque. Mais l'essentiel des Jeux, c'est bien évidemment pas ça. L'essentiel des Jeux, c'est le booster que ça doit te donner pour les 30 prochaines années, 40 prochaines années, 100 prochaines années, peu importe, sur la pratique du sport, l'acquisition de connaissances fondamentales pour vivre dans notre société, pour que les individus trouvent leur place et puissent trouver leur place ensemble dans cette société. C'est ça le truc. Le truc, c'est que aujourd'hui, cette flamme, en réalité, s'est éteinte beaucoup trop rapidement, parce que vous m'accusiez de faire de la politique tout à l'heure. Parce que justement, précisément, la politique a repris ses droits trop tôt. Et le contexte global qui est pas florissant de notre pays, c'est tout de suite accaparé la suite de l'histoire. Et l'a écrasé, l'a écrabouillé, l'a complètement atomisé. Si on n'a pas encore quelque chose qui s'élève dans le ciel, en montrant une lumière, pour faire comprendre ça, pour faire comprendre que la voie, elle est toujours là. On peut toujours monter dans ce wagon de très positif pour notre société. Sur quoi vous allez vous appuyer, mes amis?
Donc,
sur
rien. Tu es en train d'expliquer que refaire un truc artificiellement qui n'avait plus de sens, qui s'était arrêté, pour toi, c'est important.
Oui,
tout est artificiel. La Tour Eiffel est artificielle. Les pyramides sont artificielles. L'obélisque est artificiel.
Le Panthéon, tout. On est obligé. Ça, au départ, ça servait pour les radios quand même. C'est une des raisons pour laquelle elle est conservée au départ.
Nous sommes des humains. On a besoin de visuels. Voilà, le visuel est important pour les humains. Et si on n'a pas le visuel, on l'aura pas, on va tout oublier complètement.
Via le Direct Studio, j'ai beaucoup de réactions à ce très bon débat. J'ai Michel qui me dit, heureusement que Fred ne vivait pas en 1889, sinon la Tour Eiffel aurait été démontée, démontée personnellement.
Ah non, mais moi j'ai une explication, elle a eu une utilité, c'est pour ça qu'elle a été conservée, ça n'a aucun rapport.
Et José me dit, fait-on encore chaque été les Coupes du Monde 98, 2018, Roland-Garros de Doha, le dernier Tour de France, le titre de champion du monde de Bernard Hinault ou les titres de champion du monde de Prost? Voilà ce que me dit José.
Il est sympa Bernard, mais ça
n'a pas rien à voir.
Excuse-moi. c'est des événements qui n'ont eu des répercussions que dans notre pays. Là, les Jeux, on nous vend suffisamment la soupe de l'universalité du sport et tout. Pour une fois que ça a été réussi, que ça marche, que ça a eu un impact,
on comprend pas pourquoi.
Il y a Jaman qui veut intervenir au 32-16 sur ce débat. Bonjour Jaman.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à tous. Merci déjà pour ce que vous faites pour le sport et tout ce que vous avez fait. Alors, Pour moi, on parle beaucoup des, notamment des clubs sportifs qui oublient un petit peu leur histoire, qui oublient. Alors, on prend beaucoup l'exemple des clubs anglais qui mettent des statues. D'ailleurs, là, on l'a vu avec l'OM, avec la statue de Tapie qui vient d'être inaugurée. Et je pense que du coup, cette histoire qui se perdure, ces symboles qu'on arrive à faire perdurer, seront pour les futures générations. Et au-delà de juste penser aux quelques années qui vont arriver, peut-être que pour les futures générations, ça rappellera l'histoire et même les futures générations de sportifs.
Ok, donc tu es très heureux de cette initiative. C'est ce que tu veux nous dire, Jaman.
Oui, complètement.
Eh bien, écoute, tu es d'accord avec David Douillet, avec Simon Dutin, et pas forcément avec notre ami Marc Madiot et Fred Weiss. Merci en tout cas pour ce débat. C'est important de le faire et on reparlera de l'héritage des Jeux Olympiques parce que je pense que vous êtes tous d'accord pour dire une chose. Ça peut être bien la vasque, mais il ne faut pas que ce soit que la vasque. Voilà. Il faut autre chose.
Exactement.
Et le bon mot de la fin.
Le début.
Bah écoute, merci Marc, je prends tes félicitations avec beaucoup de respect et je saluerai le général de Gaulle pour toi. 10h29, on se retrouve dans quelques instants pour parler des Ferrari, Hamilton, Leclerc. Ils sont dévastés. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Marc Madiot, Fred Weiss, Simon Dutin. Ce matin, à partir de 11h, nous allons parler du retour hier de Tony Yoka. Vous aviez beaucoup de doutes hier quand on en parlait dans cette émission avant le combat. Il a gagné, Tony Yoka. Est-ce que les doutes sont un petit peu plus levés pour vous? Est-ce qu'on peut parler de renaissance? On se posera la question et évidemment on vous résumera ce combat et vous écouterez, vous entendrez Tony Yoka, mais tout de suite la Formule 1. C'est une nouvelle débâcle pour Ferrari, une humiliation même à domicile devant leur tifosi. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été éliminés en Q2 hier lors des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Les deux pilotes Ferrari partiront 11e et 12e, un fiasco de plus, un fiasco de trop peut-être. Leclerc et Hamilton étaient dévastés hier après la séance de qualification. Vous les écouterez dans quelques instants. Mais avant la course, le septuple champion du monde réclamait encore de la patience avant de juger son mariage avec la plus célèbre des écuries. C'est la punchline des GG, Lewis Hamilton.
RMC, la punchline GG.
For me, I'm not judging.
Personnellement, je ne juge pas notre succès sur une période courte, sur une demi-saison ou même une saison. Faisons le point après mon passage chez Ferrari. À la fin de mes années chez Ferrari, on pourra faire le bilan. C'est là qu'on pourra dire si cela a été un succès.
Il faut attendre. Il faut attendre, les amis. C'est ce que nous dit Lewis Hamilton. C'est ce que vous dit Lewis Hamilton. A-t-il un crédit illimité? Une carte de joker? Oui ou non, Simon Dutin?
Oui.
Marc Madiot?
Ben non.
David Douillet?
Bien sûr que oui.
Fred Weiss?
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. C'est un 2 contre 2. Bah Marc Madiot, commence, toi qui adore la Formule 1. Tu veux toujours nous parler d'Alpine, mais là on va parler d'une vraie écurie.
Alpine est aussi une écurie.
Je blague. Vas-y.
Il glisse un peu dans le mur, notamment hier, mais c'est pas grave. Non, plus sérieusement sur Hamilton et Ferrari, on serait dans l'écurie Mercedes là où il était précédemment et il serait toujours pilote Mercedes. Il y aurait cette patience et ce crédit fort logiquement accordé à Lewis Hamilton. Mais là, on est chez Ferrari. Et chez Ferrari, c'est forcément autrement. Donc, moi, je pense que le temps va être très limité. S'il fait l'ensemble de la saison comme il a commencé cette saison, je pense que ce sera compliqué et pour lui, et y compris pour Fred Vasseur à la tête de l'écurie dans les semaines et les mois qui continueront derrière, parce que Ferrari ne peut pas se permettre d'être à la traîne. Ferrari est à la traîne depuis un petit moment déjà. Fred Vasseur est là pour redresser la barre, pour aller chercher des titres, des grands prix, des victoires. Et je pense qu'il est important pour Ferrari et ses pilotes de rétablir la situation dans les semaines et les mois qui viennent. Sinon, ça va être très compliqué derrière.
Très compliqué, la patience va avoir des limites. C'est ce que tu veux nous dire. Ouais. Simon Dutin n'est pas d'accord.
Moi, je suis pas d'accord si tu donnes pas un crédit illimité à celui qui est peut-être le plus grand pilote.
Oui, mais il est plutôt jeune.
Ah, il est plutôt jeune, d'accord, mais bon, on n'est pas.
Eh oui, mais taper par Leclerc.
C'est pas du 100 mètres ou du 200 mètres. Bon, il est quand même assis dans une voiture. Il sait encore conduire. Il a pas 80 ans.
Non, mais bien sûr qu'il sait conduire. Donc, on est plus d'accord.
Non, mais je veux dire, en plus, Ferrari a donné déjà des exemples de patience.
Rappelle-toi Alain Prost.
Prost, c'est l'exception qui confirme la règle.
Prost, il était débarqué en cours d'année.
Il est quand même vice-champion du monde. Je crois que c'est au Japon que ça se joue. Il perd le titre contre Senna, alors que dès sa première saison, je crois, c'est 5 victoires. Ils n'avaient plus gagné depuis je ne sais combien d'années. Et pourtant, il est débarqué. Mais regarde, Alonso, 5 saisons, 11 victoires, 0 titre. Vettel, 6 saisons, 14 victoires, 0 titre. Bon, on n'en est même pas à la moitié de la première saison du plus grand pilote de l'histoire de Formule 1, et on est en train de m'expliquer que la patience de Ferrari va peut-être ou des fans, alors évidemment qu'ils sont déçus, hier ils se sont ratés en qualif, t'es à Imola, évidemment
il n'y a pas qu'hier,
l'impression c'est le 7e Grand Prix de la saison.
On sent qu'il y a une tension qui est en train de monter.
Elle est proportionnelle aux attentes, forcément. On se souvient de l'arrivée en grande pompe, les photos. Je veux dire, il y a une esthétique. On avait envie de voir ce mec dans la combinaison du pilote Ferrari. On a envie, de toute façon, de tout temps, de voir les plus grands champions.
Et puis surtout, il y a un jeune pilote italien qui monte en puissance.
Enfin, je veux dire, c'est un développeur fantastique, c'est un mec qui a un sang glacé dans les veines, c'est un type qui va les faire, qui va, c'est certain, les faire progresser. Si quelqu'un chez Ferrari se demande s'il faut déjà virer Hamilton, moi, alors déjà que je comprends pas grand chose à la Formule 1, là, je comprends vraiment.
Je suis pas sûr qu'on soit sur ça, hein.
On n'est pas sur cette question, mais est-ce qu'il a un crédit limité? Est-ce qu'il faut critiquer le grand champion, septuple champion du monde? Avant de vous écouter, Fred et David, pièce à conviction, juste, c'était hier, après les qualifications, donc, Ferrari éliminé en Q2, c'est quand même pas rien pour cette écurie en Italie. Écoutez, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, ils étaient au fond du trou.
Pas grand chose qu'on n'avait pas là. Clairement, j'en ai pas trop les mots là. Pour l'instant, c'est l'adrénaline est encore haute. Ça a été une session frustrante, je pense, pour tout le monde. Mais bon, là, en plus, ça, on se fait sortir tous les deux en Q2, ça fait mal. On peut pas s'attendre au miracle comme ça tous les dimanches parce que ça marche pas. Enfin, peut-être une course au bout d'un moment, on aura de la chance, mais c'est pas sur ça qu'il faut compter. Donc, faut tout simplement qu'on s'améliore. On n'est pas au niveau qu'on devrait être. On est juste nulle part, donc ça fait mal.
Je suis dévasté. On a tellement travaillé. Ma première course en Italie avec Ferrari. La voiture me semblait bien, mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on regarde. On n'a pas pu améliorer au moment où tous les autres l'ont fait.
Ah, c'est fort, hein, les propos des deux pilotes Ferrari, Fred Weiss.
Oui, alors moi je suis surpris parce que en fait Ferrari c'est une écurie de légende. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est énorme, qui est incroyable. Et Hamilton, quand il arrive là-bas, il arrive pour proposer des choses. Donc oui, ils vont lui laisser un petit peu de temps, mais c'est pas illimité parce qu'à un moment, être une légende, c'est pas un métier. Il y a des gens qui disent être gentil, c'est pas un métier. Mais être une légende, c'est pas un métier. Il faut que tu gagnes. C'est une écurie qui est peut-être au-dessus d'Hamilton.
Elle est au-dessus d'Hamilton.
Donc, à un moment, ils vont devoir prendre des décisions. Et je sais pas si t'as lu, Simon, Frédéric Vasseur, ce qu'il disait. Il a mis un tacle sévère à Hamilton, déjà. Est-ce que c'était déjà arrivé que ça arrive aussitôt dans une saison où Hamilton prenait un tacle aussi sévère direct? Je vais pas souvenir, en tous les cas. Et on a l'impression qu'il est plus vulnérable, qu'il est plus anxieux, qu'il est plus stressé. Honnêtement, pour moi, il est vraiment en difficulté.
Son problème, c'est Leclerc.
Bien sûr.
Son problème, c'est Leclerc. Non, parce que le premier adversaire, c'est lui. Leclerc est devant Hamilton depuis le début de la saison.
Ok, David Douillet.
Mais vous faites un procès qui n'existe pas. D'abord, je voudrais signifier un truc. Hein. Vous avez tous oublié que Hamilton a gagné la course sprint au Grand Prix de Chine. Voilà, avec 7 secondes d'avance sur Piastri. La course sprint, c'est la veille du Grand Prix. Bah oui, c'est une course sprint. Ça montre quand même. Bah oui, c'est une course raccourcie, mais c'est une course quand même. Ça montre quand même que Hamilton, il est là, il a toujours ses qualités et il veut faire évoluer une voiture. Et le problème de Ferrari, c'est Ferrari lui-même, c'est pas un problème de pilote, c'est un problème de voiture. On le constate en F1, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Si je prends rien que l'exemple de Williams, qui était au fin fond du classement l'année dernière et ces dernières années, se retrouve là, propulsé quasiment aux avant-postes. Et on a vu hier une belle prestation de Carlos Sainz, qui était un ancien de chez Ferrari, dominer à un moment donné la séance des qualifs. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça se joue à rien. Quand on regarde le classement aujourd'hui des voitures entre le premier et le dixième, sur chaque qualif, on est à moins d'une seconde. C'est un truc de malade. On est au dixième, quelquefois au millième. C'est un truc de fou. Bon, donc là, ils sont en train de construire une voiture. Quand on construit une voiture, que Leclerc soit devant Hamilton, ça me paraît logique. Il est le cul dans une Ferrari depuis bien plus longtemps qu'Hamilton, qui lui est resté des années et des années chez Mercedes et qui a encore tous ces formats de gestion de voiture, tout son management à l'intérieur d'une écurie qu'il a totalement remis à blanc, à question. Il est ceinture blanche chez Ferrari Hamilton en termes de management.
Dire, c'est le meilleur pilote de tous les temps, donc il n'est pas ceinture blanche. Tu ne pars pas de zéro complètement.
Le problème, c'est que dans les débats, tu n'écoutes pas ce qu'on dit. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand, dans la gestion d'une écurie, je veux dire, Mercedes n'est pas géré de la même manière que Ferrari, que McLaren ou que Aston Martin. Chaque écurie a son mode de gestion. Et c'est en cela qu'il doit s'insérer aussi Lewis Hamilton. Et quand il dit, vous me jugerez qu'après 2, 3, 4 saisons passées chez Ferrari, il a raison. Il est obligé de se modeler.
Mais il ne passera pas 2, 3, 4 saisons d'esprit. Chez Ferrari.
Mais c'est pas sûr, parce que s'il commence à gagner quelques grands prix d'ici la fin de la saison, s'il commence à faire des chronos, et si la voiture, parce que c'est surtout ça, c'est la voiture qui compte, si la voiture évolue, je vous rappelle que Ferrari, ils font tout, ils courent pas avec un moteur du copain d'à côté, comme non, ils font mais... tous. Ils font tout, ils étudient tout, ils ont leur propre ingénieur, c'est un circuit complètement fermé par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, en l'état actuel de la technologie et de la valse des ingénieurs qui passent d'une écurie à une autre, eh bien Ferrari, ce sont les seuls vrais constructeurs, entièrement constructeurs de leur voiture, ce qui n'est pas le cas des autres. Voilà, vous comprenez ce qui n'est pas comparable. Donc il faut un peu plus de temps pour eux. Le seul reproche que je ferai à Ferrari aujourd'hui, c'est d'être pas suffisamment patient. Et c'est vrai, ils ont tendance à appuyer sur le bouton du siège éjectable, que ce soit pour le patron de l'écurie, comme pour certains pilotes, un peu trop vite. Mais il faut qu'on comprenne que l'inertie de Ferrari, c'est pas la même que les autres. Elle est beaucoup plus lente.
Est-ce qu'il vous a convaincu,
non.
David?
Oui.
Non. Okay. Je rappelle les classements pilotes. Hein. Pour l'instant, Charles Leclerc est cinquième avec 53 points, loin devant la tête. Hein. Il y a notamment Max Verstappen, troisième, qui est à 99 points, et puis Oscar Piastri qui est à 131 points. Oscar Piastri qui partira en pole position. Ce sera évidemment à suivre sur RMC, ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et notre ami Lewis Hamilton est septième avec 41 points, voilà, depuis le début de la saison. Même s'il a gagné la course sprint. Et David l'a rappelé.
Voilà.
Non, mais là, on était sur une question, un crédit illimité pour Hamilton.
Ben oui.
Pour moi, la réponse est non. Non.
Ok, on a bien compris, les amis. Le Grand Prix, c'est à 15h. Ce sera animé autour de Simon Dutin. Tu seras là, évidemment, pour faire vivre ce Grand Prix.
J'en lui crois, évidemment.
11e, 12e, les Ferrari. Et c'est vrai que ça fait mauvais genre quand on est en Italie. Et c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En tout cas, on suivra ça, évidemment, avec attention. 10h44, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. La fête à Paris. Enfin, la fête. Les fêtes. Il y en aura 3 en tout. Il y a eu celle d'hier, et puis il y aura celle peut-être de la semaine prochaine, et évidemment la Ligue des Champions, et le PSG veut les choses en grand. La parade sur les Champs-Élysées. La préfecture n'est pas forcément raccord pour l'instant. On va vous donner les dernières informations. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, nous allons ouvrir le dossier Tony Yoka. Peut-on parler de renaissance? Lui qui a gagné hier. C'était la première fois depuis très longtemps en France. Ça s'est passé à Paris. On va évidemment vous raconter ce combat. Et puis 11h30, le scénario incroyable pour le Stade français qui... entrevoit un peu plus le maintien en top 14. Nous serons avec l'entraîneur des Avants, Julien Tastet, qui sera notre invité. Merci à vous de votre fidélité. Il y a beaucoup de débats ce matin. Il s'est passé beaucoup de choses hier soir, et notamment la fête au PSG.
RMC, le dossier des GG.
Et le PSG qui a donc validé son titre de champion de France. Le PSG qui se prépare à faire la fête 3 fois en 3 semaines. La première a donc eu lieu hier pour célébrer ce titre après cette victoire 3-1 face à la JO Serre. La deuxième pourrait avoir lieu samedi prochain après la finale de la Coupe de France. Et la troisième évidemment dans 2 semaines après la finale de la Ligue des Champions. Le PSG veut faire les choses en grand et notamment une parade sur les Champs-Élysées le dimanche 1er juin en cas de victoire. Arthur Perrault, notre journaliste RMC Sport qui suit de près le Paris Saint-Germain, est avec nous. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Le PSG prépare ses festivités pour cette fin de saison historique.
Oui, en cas de titre, le 31 mai, le PSG voit grand un défilé sur les Champs-Élysées dès le 1er juin. Des démarches en ce sens ont été lancées cette semaine. Le Paris Saint-Germain doit présenter demain son plan à la préfecture de police. La solution n'a pour l'heure pas les faveurs des autorités qui redoutent d'importants débordements sur l'avenue dès la fin du match, quelle que soit l'issue de la rencontre en Bavière. Le préfet rechigne à assurer la sécurité d'un événement d'une telle ampleur en demi-finale. Après la victoire contre Arsenal, des heurts avaient déjà éclaté. Bilan, 43 personnes interpellées et 3 blessés. En ce qui concerne la diffusion de la rencontre, le PSG souhaite retransmettre cette affiche au Parc des Princes avec les supporters qui n'auront pas la chance d'être à Munich. Cette option devrait obtenir l'autorisation des responsables de la préfecture de police. Les autorités connaissent parfaitement le Parc des Princes, un endroit plus facilement maîtrisable qu'une fan zone dans les rues de Paris.
Merci beaucoup Arthur Perrault pour toutes ces précisions. Des informations à retrouver sur rmcsport.fr. Vous l'avez bien compris, pour l'instant, le défilé sur les Champs-Élysées, c'est non. Pour l'instant, évidemment, le Parc des Princes pour la diffusion, c'est oui. Qu'est-ce que tu en penses, Simon Dutin ?
De la parade sur les Champs-Élysées ? De la,
oui, exactement.
Ce serait une idée formidable. Faut gagner. Moi, je j'aime pas trop quand on met la charrue avant les bœufs. Je pense que Paris gagnerait à être un peu plus discret, un peu plus sobre.
Il faut se préparer.
Il faut se préparer, d'accord. Il y a des fuites et nos journalistes sont de fin limier.
Notamment pour la sécurité, c'est le problème
aux impôts.
La sécurité.
Mais je vois difficilement comment on pourrait m'expliquer que si Paris remporte la première Ligue des Champions de son histoire, la deuxième de l'histoire du football français, ça mériterait pas une petite parade sur les Champs-Élysées. Il faut penser à tous les gens qui seront contents d'aller fêter les joueurs parisiens, des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au Parc des Princes, des gens qui ne les voient qu'à la télé. Enfin, ce serait un événement historique.
Rassemblement où tout le monde peut dire quelque chose.
C'est l'avenue iconique de la capitale, de la ville qui abrite le club. Enfin, je veux dire, regarde les parades qu'il y a en Angleterre, les bus à Imperial, tu remportes le titre. J'allais te le dire, aux États-Unis, dans les villes, il y a des fêtes exceptionnelles. Visuellement, ça donne des choses magnifique, et puis justement ça rassemble les gens. Alors après, bah c'est le job de la préfecture d'organiser ça, et voilà, ils sont pas, enfin je veux dire, la préfecture elle est pas là que pour je sais pas taper sur les gens dans les manifs, elle est aussi là pour encadrer et permettre aux gens d'aller célébrer. Alors c'est vrai que c'est un peu le bazar, même avec l'équipe de France, quand il y a des parades sur les Champs-Élysées, ça nécessite en effet une mobilisation très forte de moyens, mais
c'est plus difficile que de monter une flamichette, c'est sûr.
On va pas revenir sur le débat de la vasque olympique, s'il vous plaît, c'était à 10h, si vous avez raté ça, évidemment, chers auditeurs. Et c'est vrai, tiens, pour faire le lien avec Saint-Etienne, on en a parlé à 9h qui descend en Ligue 2. Saint-Etienne, souvenez-vous, les Verts ont descendu les Champs-Élysées après la défaite en finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que c'est arrivé aux Verts. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain ? On comprend aussi, et je pense, Marc, que tu veux parler de ça, on comprend la préfecture de police qui a déjà, et Arthur le rappelait, il y a déjà eu des incidents après la qualification pour cette finale de la Ligue des Champions. Et puis on se souvient aussi, alors ça remonte évidemment, c'était le premier titre du Paris Saint-Germain, premier titre de champion de France de l'ère Qatari en 2013, avec cette grande fête au Trocadéro, et malheureusement ça avait été gâché par des incidents. Marc Madio sur cette parade sur les Champs.
Bah, il serait inconcevable qu'il n'y ait pas cette parade. Donc le club et les supporters méritent la parade dans la ville, c'est normal, c'est le club de Paris, c'est le PSG, s'ils sont vainqueurs de la Ligue des Champions, ils méritent d'être dans une parade. Après, le problème de cette parade, c'est la sécurité en fait, c'est ça, c'est pas le fait de qu'il y ait ou non une parade, c'est le problème comment on règle la sécurité. Mais la parade doit avoir lieu et elle aura lieu.
Ah, tu penses qu'elle aura lieu ?
Oui, si Paris gagne, bien sûr. De toute façon, in fine, qu'est-ce qui va se passer ?
Si tout le monde sera sur les champs,
les gens vont envahir les champs. Donc, même si le préfet n'est pas d'accord, il y aura un envahissement des champs.
Le soir de fête, mais là, on parle du lendemain pour le retour des héros et tout ça, en anticipant évidemment la victoire. David Douillet sur ce sujet.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que même si Saint-Etienne l'a fait, etc., etc., mais je trouve que les Champs-Élysées devraient être réservés aux équipes nationales. On est champion du monde. Ouais, on est champion du monde. Les champs, voilà. C'est la plus belle avenue. Enfin, c'est réputé pour être la plus belle avenue du monde. Donc voilà, le PSG, ce n'est qu'un club.
Oui, mais c'est pas la ville de Paris. Tu veux qu'il fasse la parade à Poissy autour du camp d'entraînement.
Attendez, laissez s'exprimer David.
Et pourquoi pas à Poissy? Non, mais voilà. On a cette chance que Paris soit extrêmement riche en termes d'emplacement symbolique. Je trouve que on devrait réserver, bon c'est une idée, hein, c'est comme ça, les champs vraiment aux choses les plus exceptionnelles. Parce que sinon tu galvaudes, tu vulgarises quoi, toi tu vas faire défiler dès qu'il y aura le moindre truc qui va mettre en émotion un petit peu tout le monde.
Mais je suis d'accord avec toi, David, on a gagné tellement de
à travers un club, à travers un club, on se lave. Bah, Marseille n'a pas défilé, toi. Marseille n'a pas défilé.
Ils
n'ont
pas défilé à
Paris. Tu parles d'un événement qui émeut toute la France. Excuse-moi, mais
ça émeut toute la France, bien sûr. C'est le sport le plus populaire. On est en train de parler du sport le plus populaire.
Attends, marseillais, ça a ému toute la France. Je suis d'accord. Donc, ok, c'est le club, mais je trouve, mais moi ça me dérange pas qu'ils descendent les champs. Hein, très franchement, je suis très content. Mais je trouve que cet axe des champs ne devrait être accordé que au titre très 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 exceptionnel. Le PSG aurait déjà dû gagner plusieurs fois la Ligue des Champs pour ma part, hein, et ça devient exceptionnel parce qu'ils l'ont pas encore gagné compte tenu de tous les moyens qu'ils ont depuis toujours. Voilà, bon, les champs, c'est pour l'équipe de France, pour moi, qu'elle soit de foot ou d'un tout autre sport, des médailles olympiques, etc., etc., c'est les champs. Après, quand il s'agit d'un titre européen, c'est le cas pour la Ligue des Champions, ou d'un club, bon, ben voilà, il y a d'autres endroits qui sont tout aussi, quasiment tout aussi emblématiques. Vous avez cité les Trocadéro, l'axe de la Tour Eiffel, c'est un bel endroit aussi. Mais vous l'avez dit aussi, les gens, ils vont pas se poser la question, ils seront sur les Jeux de toute façon, quoi qu'il arrive.
Mais moi je me pose la question, qui est le monsieur qui parle là? C'est le David Douillet qui nous disait il faut un endroit pour se rappeler des choses, pour célébrer, pour communier tous ensemble, et c'est le même qui est en train de me dire ah ben non, là on parle juste du sport le plus populaire dans la ville de Paris, qui est la ville haute du club, avec la plus grande compétition de clubs du monde, et ça serait seulement la deuxième fois de l'histoire que la France en gagnerait un, et on n'aurait pas le droit d'aller sur les champs, et au contraire on considérait pas ça comme un événement. Mais moi, je trouve ça que ça serait un événement fantastique. Et si j'avais été Marseillais, moi, je serais à Marseille en train de défiler aussi. Évidemment, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne touche pas que le Paris Saint-Germain. Ça touche tous les sportifs. Ça touche tous les sportifs qui aiment le foot. Ça touche tout le monde. Donc, à partir de là, je ne peux pas comprendre que ce moment qui pourrait être une communion immense, géniale, fantastique pour un événement incroyable, ben, on puisse pas leur autoriser.
Mais maintenant, faut l'organiser. Il faut avoir, au niveau des services, de la préfecture, il faut avoir envie de l'organiser. Parce qu'évidemment, il y aura beaucoup de moyens mis en place. Mais d'abord, il faut la gagner, cette finale de la Ligue des Champions. Et ça, ce n'est pas fait. Il y aura la finale de la Coupe de France. Et on en parlera. Oui, 10 secondes vraiment, David.
Non, mais si on aborde les problèmes de sécurité, c'est peut-être plus simple de le sécuriser ailleurs. Et le foot n'est pas la même chose que les jeux en termes de sécurité. On l'a constaté. Et malheureusement, on le constate tous les jours. Je dis bien malheureusement, hein. Donc voilà, il faut.
Et on reparlera de cette initiative évidemment du Paris Saint-Germain et on en saura un petit peu plus dans les jours à venir. Mais forcément, ça va nous occuper les festivités du Paris Saint-Germain. Sachez que toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Tony Yoka, sa renaissance, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous croyez à quelque chose? Son papa sera avec nous dans les grandes gueules du sport. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.